Fete!
Ça tourne.
Action, partez!
Moi, je veux du féroce actualité.
Faut pas de vraies informations pour vendre un journal.
Je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine?
Non, je n'ai pas envie de voir du cinéma.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexis Homé et qui dit vendredi dit évidemment Super 16, votre quart d'heure et une minute d'actu ciné hebdomadaire sur Séance Radio. Je suis de cloneweb.net et lui de bulledeculture.com, Antoine Corté, bonjour.
Bonjour Alexis.
Comment ça va?
J'ai l'impression d'être mardi avec ce jour férié.
Ah bah ça c'est le décalage horaire du passage à l'heure d'hiver. Donc d'ailleurs, toi qui défendais la rétrospective Polanski la semaine dernière, eh bien sache que nos auditeurs ne t'ont pas suivi. À notre sondage, vous avez voté d'ailleurs à 50% contre le fait que la Cinémathèque ait maintenu la rétrospective consacrée au cinéaste, contre 32% qui l'ont soutenu.
Donc du coup, on a quand même 18% des personnes qui se demandent ce que c'est que la Cinémathèque.
Ah, ça te fait un peu rager ça.
Ah bah évidemment.
Donc en tout cas, cette semaine, nos trois mots-clés de l'actu sont James Bond, Padmavati et Caméra d'or. Et nous finirons bien entendu par notre suggestion cinéma de films qui sont sortis cette semaine avec le Quoi voir ce week-end. Super 16 saison 2 épisode 6, ça commence maintenant.
Je m'appelle Bond. James Bond.
Tandis que la saga de L'Arme Fatale s'apprête à ajouter un cinquième opus à son actif et que les querelles d'ego manquent de détruire de l'intérieur celle de Fast and Furious, on a préféré vous parler de l'une, si ce n'est la plus ancienne de toutes. Bon, c'est clair, James Bond, c'est Daniel Craig qui ira jusqu'au bout de son contrat de 5 films, donc ne cherchez pas, ce sera lui qui sera sur l'affiche. Par contre, celui qui ne reviendra pas, ce sera Christoph Waltz qui était le méchant Blofeld dans Spectre. C'est une décision étonnante, Antoine, car il était plutôt bien parti pour faire encore un méchant sur plusieurs épisodes.
J'ai revu Spectre en plus cette semaine, il est passé à la télévision.
Ouais.
C'est vrai qu'il était quand même un méchant charismatique et impressionnant. De cette saga, en tout cas de la saga récente. Ça aurait été sympa effectivement de revoir un personnage et un méchant récurrent réintégrer James Bond. On n'en avait pas vu depuis très longtemps, je crois, Alexis, c'est depuis quand?
En fait, son personnage de Blofeld, c'était déjà un personnage récurrent, en tout cas le méchant principal de l'époque des Sean Connery, en fait.
Voilà, ça fait très longtemps. Et du coup, alors que en plus, on pensait avoir adopté une certaine linéarité avec les James Bond, c'est-à-dire qu'on a eu Casino Royale qui suivait, ensuite Quantum of Solace, et donc du coup, on se dit, tiens, effectivement, peut-être qu'il va y avoir de nouveau encore des corrélations entre les épisodes. Là, le dernier Spectre ferme un petit peu, j'ai envie de dire, cette linéarité, et j'ai l'impression que là, on va repartir dans quelque chose un peu plus classique, sommaire, en oubliant en tout cas les films précédents. Donc, est-ce que c'est ça, ou est-ce qu'il y aura d'autres surprise, on sait pas, en tout cas c'est vraiment dommage, je trouve.
Pas forcément, puisqu'en fait le scénario est écrit encore à quatre mains par Robert Wade et Neil Purvis, c'était le duo qui était derrière tous les scripts de James Bond depuis Le Monde ne suffit pas, donc on perd pas tellement les petites habitudes. Purvis a dit en début d'année d'ailleurs, le scénariste, que à chaque fois vous devez dire quelque chose sur la place de Bond dans le monde, celle du Royaume-Uni, mais les choses qui bougent si vite de nos jours que ça devient très compliqué, et avec des gens comme Trump par exemple, les méchants des James Bond sont devenus une réalité. Est-ce que tu es d'ailleurs un petit peu d'accord avec ça, avec ce point de vue du scénariste de James Bond?
Elle est très politique ta question. En tout cas effectivement c'est vrai qu'on a une incarnation de la figure méchante qui est intéressant avec cette comparaison que fait le scénariste. Moi je suis content en tout cas qu'on reste quand même dans une vague assez classique du James Bond, c'est-à-dire qu'on va pas encore chercher, attention, peut-être on va pas encore chercher le djihad, ce genre de figure très impressionnante et méchante. On reste quand même dans quelque chose d'assez classique, une figure méchante. C'est pour ça que je regrette le non-retour de Christoph Waltz, et un méchant aussi charismatique que Trump, ça va être compliqué.
Voilà, même Kim Jong-un, ça peut marcher aussi, avec Mr. Rocketman.
Peut-être, si on lui met des dents d'acier, peut-être voilà. Que ça peut marcher.
J'imagine déjà, mais en tout cas, l'autre grosse info, c'est pour ça qu'on voulait vous parler de James Bond, c'est que le studio indépendant qui monte à Hollywood, qui s'appelle Annapurna, vous reconnaissez peut-être le logo quelque part sur pas mal de films, en fait a trouvé un deal avec la MGM pour distribuer les films de la MGM, et donc notamment le trésor de son catalogue qui pèse très lourd dans les tractations, qui est donc toute la saga James Bond. Donc depuis Casino Royale qui était sorti en 2006, c'était Sony qui distribuait le film dans le monde. C'est un petit peu un coup dur pour Sony là, qui perd maintenant James Bond.
L'une de ses plus grosses, de ses plus grosses machines à cash.
Ouais.
Malheureusement, il en reste plus beaucoup dans l'escarcelle de Sony. Il y a Spider-Man qui conserve, mais douloureusement parce que.
Mais c'est avec Marvel quoi.
Voilà. Marvel et leur tord le bras et en plus ils ont dû le prêter déjà à Disney pour qu'il intègre les films avec les comment t'appelles ça, les Avengers et tout ça.
Oui, voilà. Et puis, les gens en costume.
Et puis, donc, je vois quelle grosse franchise encore à Sony.
Mais il leur reste des Men in Black ou même les Ghostbusters, mais ça n'a même pas marché non plus.
Oui, SOS Phantom. Du coup, ils ont du mal à repartir. Là, il va y avoir Jumanji. Ça a l'air d'être une catastrophe. Donc,
ils vont tout miser dessus.
À voir. Blade Runner, il paraît qu'ils sont très déçus de Blade Runner, surtout à l'international.
Mm-hmm. Bah, c'est eux qui distribuaient Blade Runner. Bah, d'ailleurs, c'est intéressant que tu en parles, puisque Daniel Craig il milite pour que ce soit Denis Villeneuve, donc réalisateur de Blade Runner 2049, pour qu'il soit aux commandes du James Bond numéro 25. Ça, pour l'instant, on n'en sait pas. Donc, le titre de travail est actuellement Shatterhand, mais il serait question d'une adaptation du roman Ne rêve jamais de mourir de Raymond Benson, donc auteur de plusieurs romans avec James Bond, et où le méchant serait même
Daniel Trump. Donald Trump.
Non.
Hein? Bah aveugle.
Voilà. Donc tout simplement, j'imagine déjà le visuel que ça peut donner. Il y a déjà
en
eu
3D,
des
en 3D, voilà. Peut-être.
Bah ça, je sais pas si on y sera, mais en tout cas, il y a déjà eu des repérages qui sont faits en Croatie. Donc on aura encore le temps de venir voir puisque Bond reviendra, mais pas avant le début du mois de novembre 2019. Padmavati, c'est quoi ? Eh bien, il s'agit d'une super production du réalisateur indien Sanjay Leela Bhansali, donc issu des célèbres studios de Bollywood, qui sera donc le premier film à être distribué dans le monde entier par la société américaine Paramount. Alors, pourquoi c'est une bonne nouvelle, Antoine, le fait que ce film-là puisse être distribué dans le monde entier ?
Alors, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que, en fait, en regardant la bande-annonce, on voit totalement ce que ça peut être, c'est-à-dire 2 heures de migraine ophtalmique avec plein de couleurs. Donc, ça va être magnifique. Moi, franchement, je n'attendais que ça dans ma vie de cinéphile, de pouvoir découvrir un film Bollywood sur le grand écran. C'est vrai que c'est magique. Hein.
Non, mais voilà, c'est surtout que le cinéma hollywoodien, moi j'aime bien cette nouvelle-là, parce que très souvent, Hollywood, ça reste auto-centré uniquement autour du cinéma américain et ça ne regarde rien ailleurs. Là, au moins, on va avoir des films donc, qui sont issus de l'Inde, qui est un des plus gros producteurs de films, mais pourtant, c'est assez rare de voir ces films-là. Donc, je trouvais que c'était assez important d'en parler, justement à l'heure du cinéma asiatique, où en France on a le festival du film coréen à Paris qui vient de s'achever, et le Kinotayo qui est consacré au cinéma contemporain venu du Japon qui arrive, qui vient tout juste de commencer, qui a commencé hier. C'est quand même assez important le cinéma asiatique, Antoine.
Bah, en fait, c'est important. Effectivement, là, on a l'impression que t'as une production qui arrive, une grosse production avec beaucoup d'argent.
Bah, c'est actuel, là.
Là, on parle de l'Inde, mais il y a les Chinois qui ont déjà investi l'international avec le film La Grande Muraille, avec Matt Damon notamment. C'est un peu brouillon pour l'instant, tout ça, parce que ils ont beaucoup d'argent, ils savent pas trop, j'ai l'impression, comment gérer tout ça et où mettre leur argent. C'est-à-dire que scénario, bon, c'est pas très important, effets spéciaux.
Bah, si, beaucoup quand même, essaie de même beaucoup d'effets spéciaux. Et puis, c'est le plus gros parc, la Chine, c'est le plus gros parc de salles.
Scénario, pas très important. Effets spéciaux, c'est bien d'en mettre, même si effectivement, c'est pas forcément justifié. Mais alors, du coup, pourquoi on a tant de mal, à ton avis, à voir ces films asiatiques?
Bah, en fait, en France, par exemple, ce sont surtout des petits distributeurs en fait, qui portent à bout de bras ces méga blockbusters. Par exemple, on a Metropolitan ou Wild Bunch pour les plus gros, ou Nighthead Films et The Jokers pour les longs métrages, que ce soit chinois, coréen, japonais, thaïlandais, etc. Et en fait, ils n'ont pas beaucoup de budget pour acheter des films pour lesquels les distributeurs chinois demandent énormément d'argent. Donc les sélections se raréfient, et par exemple en 2016 on avait quasiment aucun film chinois, à montrer en France parce que ça coûtait beaucoup trop cher. L'an dernier, on a eu par exemple 3 films coréens. On a eu Mademoiselle, Dernier Train pour Busan et The Strangers. Mais un, ils étaient au Festival de Cannes et donc ça rassure les distributeurs français d'avoir cette visibilité-là avant de sortir le film en salle. Et deux, c'était l'année France-Corée, donc il était plus facile pour les distributeurs de recevoir des aides et des subventions d'organismes publics dans ce sens pour faire la promotion entre la France et la Corée du Sud.
Alors effectivement, mais peut-être que si on n'en voit pas beaucoup en France, c'est peut-être que ça marche pas vraiment. Il y a un public pour ça, Alexis, ou pas?
Bah en fait, le Dernier Train pour Busan, justement, c'est un bon exemple et à la fois un contre-exemple, puisqu'il a fait plus de 275 000 entrées en France. Donc pour une grosse comédie française ou un blockbuster américain, ce genre d'entrée, c'est considéré comme un échec. Mais là, c'était le plus gros succès pour un film coréen sur notre territoire.
Un film de zombie, hein, quand même.
Voilà, un film de zombie dans un TGV. Donc c'est un film de genre, mais la promo était bien faite. Mais voilà, ça reste un public de niche pour l'instant.
Vous avez un chat là-dedans?
Plein. Je les engraisse et après, je les cuisine pour les manger avec de la compote comme du boudin.
Ce mercredi est sorti Jeune femme de Léonore Serrail avec Laetitia Doche et si on en parle dans Super 16, c'est parce que le film a surtout remporté la Caméra d'Or au dernier festival de Cannes. Donc en 2018 d'ailleurs, ce sera les 40 ans de la récompense qui a été créée par Gilles Jacob. Mais pour les non-initiés, rappelle-nous ce que c'est la Caméra d'Or.
Alors la Caméra d'Or, c'est en fait un prix qui est décerné lors du festival de Cannes qui récompense le premier film, enfin un premier film d'un réalisateur, toute sélection confondue. Donc en fait, le jury peut très bien aller chercher ce film en sélection officielle, compétition officielle, ou alors Un Certain Regard,
la quinzaine,
voilà.
Alors est-ce que c'est plus un booster de carrière ou plus un poids en supplémentaire dans la carrière de ces jeunes jeunes réalisateurs et réalisatrices qui la reçoivent?
Alors déjà, moi je trouve que il y a quand même un truc assez particulier, c'est que ce prix donc qui existe depuis 1978, je regardais la liste tout à l'heure et je vois quand même une prédominance française, c'est-à-dire que il y a à peu près 10 caméras d'or qui sont françaises, là où en Palme d'Or on en a que 7, alors que la Palme, le Festival de Cannes existe depuis 1939 je crois. Et moi je trouve que, pourquoi, à mon avis, parce que généralement les membres du jury qui attribuent la Caméra d'Or sont principalement aussi beaucoup de personnalité française, et c'est pour ça qu'on a aussi cette prédominance. Ensuite, il y a effectivement quelques petits boosters de carrière. Il y a Naomi Kawase qui a eu le prix.
Il y a Jafar Parani.
Jafar Parani, Jim Jarmusch.
Steve McQueen.
Exactement.
Mais après, pour moi, ceux-là, c'est... Oui, ok, ils sont connus maintenant, mais pour moi, c'est plutôt des habitués du Festival de Cannes, après.
Oui.
Mais pas tellement du succès en salle directement.
Exactement, c'est vrai qu'il n'y a pas de gros réalisateurs dont la carrière a explosé. Par exemple, Xavier Dolan n'a pas eu la Caméra d'Or, alors que c'est typiquement quelqu'un qui est né à Cannes et on aurait pu imaginer qu'il aurait pu bénéficier de ce prix-là. Mais là encore, peut-être que ce prix permet aussi de mettre sur le devant de la scène des réalisateurs un peu compliqués d'accès, comme pour l'ensemble des prix du Festival de Cannes, où on braque les projecteurs sur eux pour essayer de leur donner une belle carrière par la suite.
En tout cas, on souhaite toute la réussite possible à Léonore Serrail et à son film Jeune femme, sorti ce mercredi dans les salles. Et sans transition, passons au quoi voir ce week-end. Vous êtes sûrement déjà allé au cinéma mercredi parce que c'était férié, mais comme on fait les choses bien ici dans Super 16, on va vous donner quand même notre avis sur ce qu'il ne fallait pas louper au cinéma. Donc, dans les salles, Antoine, tu as choisi Daddy Cool. Non. D'après une histoire vraie, non plus. Jigsaw. Bon, qu'est-ce que t'as choisi? Parce que là, il y a plein de films, je m'y perds.
Alors, effectivement, moi, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai pas de vrai coup de cœur qui s'est dégagé cette semaine. Je vais être très bref, mais peut-être Les Conquérantes sur un film qui parle du droit de vote des femmes. Et donc, du coup, un petit film qui m'a fait penser, moi, à Pride. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, on est sur un combat pour obtenir des droits, et là encore ce film, j'ai passé un bon moment sans être non plus transcendé. Donc s'il fallait en choisir qu'un,
c'est un ton léger quand même, c'est une comédie.
C'est une comédie, donc s'il fallait en choisir qu'un, c'est celui-là, parce que les autres, j'ai vraiment pas été convaincu, disons.
Bah, moi, je vais un peu plus pour plomber l'ambiance, puisque moi, j'ai choisi plutôt le documentaire Carré 35 d'Eric Caravaca, qui était présenté en hors compétition au Festival de Cannes. Donc, Eric Caravaca, c'est un acteur et donc un réalisateur. Et en fait, le film traite de la question du deuil, et qui plus est d'un enfant en bas âge. C'est un secret de famille, c'est fait de non-dits, la volonté d'oublier le passé. C'est un film d'une pudeur infime, c'est incroyable, ça mêle le drame aussi, un drame personnel, quelque chose de plus politique justement, au parcours des pieds noirs en Algérie, là c'est plutôt au Maroc, à Casablanca. C'est une thérapie familiale, mais aussi une thérapie pour le spectateur. C'est un peu aussi sous la forme d'une enquête, qu'on trouverait d'ailleurs plutôt dans un polar, où on essaie de reconstituer les pièces d'une grande énigme. C'est assez bouleversant, je dois dire. Donc, si vous pouvez aller le voir, bon, c'est un peu moins drôle que Les Conquérantes, mais Carré 35 d'Eric Caravaca, qui est sorti ce mercredi, c'est une très très bonne adresse. Super 16 touche à sa fin, c'était encore un plaisir de vous retrouver. À côté, je suis sur cloneweb.net et toi Antoine sur bulledeculture.com. Super 16, c'est sur Séance Radio, mais aussi en podcast sur SoundCloud, iTunes et tous les autres agrégateurs. N'hésitez pas à nous laisser vos conseils, vos avis, vos envies directement dans les commentaires. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour un nouvel épisode de Super 16. Bon week-end.
Bon week-end.
Ça tourne.
Féroce actualité.
Faut prendre de vraies informations pour vendre un journal.
Je vais envoyer les actualités, vous venez les voir dans la cabine ?
Non, je n'ai pas envie de voir du cinéma.